Laudetur Jesus Christus.
Une décision saluée par les défenseurs de l'environnement, celle de la Cour internationale de justice de La Haye hier, sur la responsabilité des États quant à leur émission de gaz à effet de serre. Nous verrons pourquoi il s'agit d'un avis historique. Une personne tuée dans les affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge qui sont en cours. Des avions de combat viennent de frapper le Cambodge. Dans ce journal, nous irons également à Istanbul où des délégations ukrainiennes et russes se sont rencontrées hier soir. Nous entendrons aussi les difficultés des médecins dans la bande de Gaza. Ils manquent de tout, même de quoi se nourrir. Nous serons avec l'ONG Médecins du Monde. Et puis enfin dans notre dossier, alors que le Danemark a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne, retour sur une figure montante de la politique danoise et européenne, Mette Frederiksen.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une décision que certains qualifient déjà d'historique. La Cour internationale de justice à La Haye estime dans un avis rendu hier que les États ont une responsabilité juridique quant à leur émission de gaz à effet de serre. Un avis juridique qui peut paraître très théorique mais qui pourtant pourrait avoir de nombreuses conséquences futures. À Bruxelles, Elena Loison.
Oui, les juges de la Cour internationale de justice devaient répondre à deux questions. Quelles sont les obligations des États en matière de protection de la planète et quelles sont les conséquences juridiques de ces obligations pour les États? À ces deux questions, la Cour a répondu, et c'est rarissime, à l'unanimité, en mettant les États pollueurs face à leurs responsabilités. Elle estime que le dérèglement climatique est une menace urgente et existentielle, que les traités actuels sont insuffisants et que les États ont pour devoir de protéger les générations futures, reconnaissant ainsi un droit légal à des individus qui ne sont pas encore nés. Conséquence, la Cour estime que les États doivent prévenir les préjudices climatiques et ont donc la responsabilité juridique de leurs émissions de gaz polluants. Une décision majeure car elle ouvre la voie à des demandes de réparation de la part d'États affectés par les conséquences du réchauffement climatique. Ce texte, qui offre un nouveau fondement juridique, a été salué par de nombreux défenseurs de l'environnement. Même s'il n'est pas contraignant, il devrait servir de référence aux juridictions nationales dans les nombreux procès en lien avec le climat, ouvert un peu partout dans le monde. Bruxelles, Elena Loison pour Radio Vatican.
Et également la une de l'actualité ce matin, la pire crise depuis 15 ans entre le Cambodge et la Thaïlande. Des nouveaux échanges de tirs ont eu lieu. Au niveau de la frontière, un civil thaïlandais a été tué et plusieurs personnes sont blessées. Myriam Sandounou.
Oui Marine, les deux armées se rejettent la responsabilité d'avoir ouvert le feu en premier. Selon la Thaïlande, les forces cambodgiennes ont tiré en direction du flanc est d'un temple situé à environ 200 mètres de la base thaïlandaise. L'ambassade thaïlandaise au Cambodge a appelé ses ressortissants à quitter le pays le plus tôt possible. Côté cambodgien, on accuse l'armée thaïlandaise d'avoir violé l'intégrité territoriale du pays en lançant une attaque armée. Le Cambodge évoque une légitime défense en pleine conformité avec le droit international pour, dit-elle, repousser l'incursion thaïlandaise. Les pays s'opposent depuis bien longtemps sur le tracé de leur frontière commune définie du temps de l'Indochine française, mais la crise en cours est la plus grave depuis près de 15 ans, vous l'avez dit. La mort d'un soldat cambodgien à la suite d'échanges de tirs fin mai dans une autre zone disputée de la frontière a mis le feu aux poudres entre les deux pays qui ont drastiquement réduit leurs échanges économiques et diplomatiques.
Merci Myriam. Myriam Sandounou. Un sommet entre l'Union européenne et la Chine ce jeudi à Pékin pour célébrer les 50 ans de relations diplomatiques. Mais les dirigeants européens sont arrivés à Pékin avec une longue liste de contentieux, comme le déséquilibre commercial en défaveur de l'UE ou le rapprochement Pékin-Moscou. Des délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrées à nouveau hier soir à Istanbul, en Turquie. Troisième réunion en trois mois, dans la perspective de mettre fin au conflit déclenché par l'assaut russe contre l'Ukraine, c'était en février 2022. Les attentes sont minces et la Russie avait d'ailleurs prévenu avant la rencontre qu'il ne fallait pas s'attendre à des avancées miraculeuses. Le principal résultat de cette troisième session de discussion hier soir, Kiev et Moscou se sont mis d'accord sur un nouvel échange de prisonniers à Ankara, Anand Lower.
1200 prisonniers bientôt échangés de chaque côté, c'est le bilan concret de cette troisième session de pourparlers. Un bilan qui ressemble à ceux des deux premières rencontres, mi-mai et début juin, quand les deux camps avaient annoncé l'échange de milliers de prisonniers et soldats tués de part et d'autre. À Istanbul mercredi, la Russie s'est dite prête à rendre à l'Ukraine les corps de 3000 autres soldats. Contrairement aux réunions précédentes, celle-ci a débuté par un échange à trois. Les chefs des délégations russes et ukrainiennes se sont parlé pendant une heure en présence du ministre turc des Affaires étrangères avant d'être rejoint par le reste des délégations. La Turquie a posé comme objectif de ces réunions l'établissement d'un cessez-le-feu. L'Ukraine le réclame, mais la Russie continue de poser ses conditions et de proposer tout au plus des trêves localisées de 24 à 48 heures afin de permettre aux deux armées de récupérer leurs morts et leurs blessés. L'Ukraine a suggéré la tenue d'un sommet des deux présidents, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, d'ici fin août, un sommet que la Russie n'a cessé d'exclure pour l'instant. Le chef de la délégation russe a reconnu que les positions restaient, je cite, « assez éloignées ». À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
Et à Kiev, la capitale ukrainienne, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées contre la loi promulguée hier qui limite les pouvoirs des agences anticorruption. Selon les manifestants et de nombreuses ONG, cette loi renforce de façon illégitime le pouvoir du président et permettra au gouvernement de s'immiscer dans les affaires de corruption, un mal endémique en Ukraine. Un appel à une action illégale au regard du droit international. Hier, 70 députés israéliens ont voté un appel au gouvernement pour annexer la Cisjordanie occupée et, disent-ils, retirer de l'ordre du jour tout projet d'État palestinien. Et ce mercredi, plus d'une centaine d'organisations humanitaires avertissaient une famine de masse se propage dans la bande de Gaza. Lundi déjà, des journalistes à Gaza témoignaient de la difficulté pour eux aussi de trouver à manger et donc d'avoir l'énergie nécessaire à leur exercice, à l'exercice de leur métier. Il en est de même pour les quelques équipes des ONG qui parviennent encore à opérer sur place. C'est par exemple le cas de Médecins du Monde. L'ONG compte 6 cliniques et 110 personnes réparties dans la bande de Gaza. Eux aussi souffrent de la faim et du manque d'accès aux soins. Elena Ranchal est directrice des opérations internationales chez Médecins du Monde.
Nos staff, qui sont des Palestiniens, ils sont des Gazaouis, manger tous les jours, c'est extrêmement compliqué. Un, parce que les prix ils sont exorbitants, et deux, parce qu'on ne trouve pas la nourriture. On est réduit à manger une fois par jour quand c'est possible. Ça, un adulte, c'est compliqué à gérer, surtout quand ça fait 18 mois d'une situation très difficile. Imaginez-vous les gens malades, les enfants, etc. Au niveau santé, on est en train de faire avec les moyens de bord. Dans certains hôpitaux, il y a jusqu'à 5 bébés par incubateur. Imaginez, 5 bébés par incubateur. Il y a 15 000 personnes à l'intérieur qui sont besoin d'être évacuées parce qu'il n'y a pas les soins à l'intérieur, bien parce qu'ils sont des blessures assez graves, mais des patients, par exemple, qui ont besoin de chimiothérapie, de faire de la dialyse, etc. Il faut compter tous les gens qui sont morts à cause de ne pas avoir accès à la santé. Et que ce soit en Cisjordanie ou dans les pays alentours, il y a les moyens pour soigner ces personnes. De façon que ce n'est pas un manque de volonté politique, non. Il y a une volonté politique de freiner et d'empêcher cet accès.
Elena Ranchal, directrice des opérations internationales chez Médecins du Monde. Et après l'Espagne où les évêques d'Afrique australe, c'est le Brésil qui se joint à la procédure juridique contre Israël devant la Cour internationale de justice, accusant l'État hébreu de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Les États-Unis entendent être les plus puissants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et cela passe, selon Donald Trump, par une dérégulation en masse. Une feuille de route a été présentée cette nuit. Elle vise à faciliter la construction de nouveaux centres de données, développer la diplomatie intelligence artificielle, soit l'exportation de l'IA, et enfin interdire les différents services qui pourraient contrôler les contenus générés par l'intelligence artificielle. Et toujours aux États-Unis, l'université de Columbia annonce un accord de 221 millions de dollars pour mettre fin aux enquêtes menées par l'administration de Donald Trump en guerre contre plusieurs établissements universitaires qu'elle accuse de progressisme. En versant cette somme, l'Université de Columbia pourra à nouveau bénéficier des subventions fédérales qui avaient été supprimées en mars dernier. Le 1er juillet, le Danemark prenait la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne et cela pour les 6 prochains mois. Lors de son discours de présentation, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, prônait une stratégie visant à construire une Europe forte dans un monde confronté à de nombreux bouleversements internationaux, appelant ainsi les pays à investir au niveau européen dans les thématiques de défense, d'immigration et de lutte contre les changements climatiques. Des priorités qui font finalement écho à la politique menée à l'échelle nationale par la plus jeune première ministre de l'histoire de ce pays scandinave, de moins de 6 millions d'habitants. La dirigeante social-démocrate danoise avait déjà fait parler d'elle ces derniers mois pour avoir haussé le ton, on s'en souvient, contre les convoitises américaines sur le Groenland. Retour sur le parcours et les aspirations pour l'Europe de Mette Frederiksen avec Cyril Coulet, spécialiste des questions nordiques et ancien chercheur à l'Institut suédois de Paris.
Alors, Mette Frederiksen, elle s'inscrit dans une longue lignée en fait familiale de militance au sein des organisations de gauche et particulièrement la Confédération syndicale LO et le Parti social-démocrate auquel ont appartenu son arrière-grand-père, son grand-père et son père. Dès l'âge de 15 ans, elle rejoint le mouvement de la jeunesse Parti social-démocrate, dont elle va gravir petit à petit tous les échelons jusqu'à rejoindre en fait la direction nationale de cette formation de jeunesse. Et puis elle va ensuite poursuivre son parcours au sein du Parti social-démocrate à l'occasion de son élection en 2001 en tant que députée, à un âge très jeune puisqu'elle n'avait que 24 ans et à un moment où elle n'avait pas d'ailleurs terminé ses études universitaires.
Quel impact va-t-elle avoir sur le Parti social-démocrate danois ?
C'est un parti qui a connu une évolution politique très notable sur la question en fait de l'immigration. Sous l'impulsion en fait de Mette Frederiksen à deux titres. Le premier titre, c'est bien sûr avec la rénovation du programme du parti à l'occasion de son accession à la tête du parti en 2015. Mais aussi, Mette Frederiksen a été ministre de la Justice de 2014 à 2015. Et c'est à ce moment-là que les Danois ont enregistré ce qu'ils appellent le changement de paradigme sur leur politique migratoire. C'est le moment où en fait les réfugiés syriens sont accueillis sur le territoire danois, mais ne se voient pas reconnaître le statut de réfugié politique et se voient juste accorder en fait une autorisation temporaire de résidence qui peut être révoquée à tout moment par le gouvernement danois. Et cette évolution, elle s'est aussi concrétisée en 2019 lorsque Mette Frederiksen accède au pouvoir en qualité de Premier ministre. Assez rapidement, en fait, Mette Frederiksen va faire un discours pour dire qu'elle ne veut plus de demandeurs d'asile sur le territoire danois. Elle conduit une politique très active visant en fait à délocaliser le traitement de la demande d'asile, d'où le fait qu'en mai 2025, nous avons cette initiative portée par Mette Frederiksen, en lien notamment avec Giorgia Meloni, pour revenir en fait sur des prérogatives données à la Cour européenne des droits de l'homme, notamment sur les questions migratoires. En dehors de ça, on a quelqu'un qui est plutôt avec une conscience écologique, volonté de recherche d'égalité et de justice sociale. Donc c'est spécifiquement en fait sur cette question de l'accueil en fait des réfugiés politiques que se joue la singularité de Mette Frederiksen sur la scène même de la social-démocratie européenne.
En 2019, elle se présentait comme très eurosceptique. Aujourd'hui, au contraire, elle est l'une des grandes voix à défendre le projet européen. Comment l'expliquer ?
Avec l'invasion de l'Ukraine, le Danemark réalise, mais comme d'autres pays nordiques, que la sécurité ne peut être finalement garantie que dans le cadre d'une alliance collective. Et par conséquent, l'Union européenne peut être en tout cas l'un des piliers de cette sécurité. Mette Frederiksen réinvestit l'échelon européen qui jusque-là n'avait jamais été vraiment investi par le Danemark, qui s'est toujours présenté comme l'un des plus eurosceptiques des pays membres de l'Union européenne, qui était rentré un peu par défaut dans la communauté économique européenne en suivant le Royaume-Uni en 1973, sans avoir forcément un sentiment d'appartenance ou d'identité à l'Union européenne qui était juste ici très fort.
Quel est son projet, sa vision pour l'Europe ?
Je pense qu'elle a vraiment le projet d'une Europe plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, en capacité d'assurer la protection de ses ressortissants, quelles que soient les menaces qui se présentent à elle. Que ce soit la question stratégique, on l'a dit, que ce soit la question à la limite des flux migratoires, de leur traitement, de par la position qu'elle essaye de donner au Danemark et qu'elle essaye d'impulser au sein de l'Union européenne. Ensuite, cette position, elle ne sera pas consensuelle. Autant sur la question stratégique et de défense, c'est très très consensuel aujourd'hui, à quelques exceptions près, si l'on nommait en fait la Hongrie de Viktor Orban. Autant sur les questions migratoires, ça va être beaucoup plus compliqué.
Voilà, interrogé par Alexandra Sirgan, Cyril Coulet, spécialiste des questions nordiques et ancien chercheur à l'Institut suédois à Paris, était ce matin notre invité. Merci de votre écoute. L'information revient tout à l'heure, à 13h, à Rome. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.